Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Benjamin.
Salut Barthélemy.
Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi.
Bah c'est avec plaisir.
On est à Joinville, pas loin de l'INSEP.
On n'est pas loin.
Ouais, juste à côté de l'endroit où tu t'entraînes pas tant que ça finalement.
La moitié du temps, on va dire. Ouais. On est sur l'INSEP la moitié du temps pour la simple et bonne, je sais pas si c'est une bonne raison, mais on n'a pas de plateforme de 10 mètres sur l'INSEP.
Ouais.
Et donc pour faire du 10 mètres, il faut une plateforme de 10 mètres et on en a une à la piscine publique de Montreuil. Donc le pôle INSEP s'entraîne là-bas depuis longtemps. Donc pour ceux qui font de la plateforme, on y va 4 matins par semaine. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc pour moi, il reste les après-midi sur l'INSEP.
Okay.
Et puis après le mercredi matin et le samedi matin. Parfois c'est Montreuil, parfois c'est l'INSEP, mais on va dire moite-moite.
Ok, du coup l'INSEP c'est peut-être plutôt pour le physique et peut-être un peu de technique et vraiment le Montreuil c'est vraiment pour de la pratique.
Ouais, on pourrait dire que le gros du travail est fait à l'INSEP, Okay. Parce que c'est là où on a tout l'espace à sec. Comme je disais, c'est une piscine publique, Montreuil, donc on n'a pas de zone d'échauffement de plongeon. Donc on a quelques tapis pour aller s'échauffer, faire quelques saltos, mais c'est spartiate. Et donc tout ce qui est travail à sec, donc trampoline, travail un peu de gymnastique, vraiment le gros du travail est fait sur l'INSEP. Ouais. Tout ce qui est base technique, ce qui est le gros du travail, le 10 mètres, c'est la finalité, mais tout ce qui est le gros travail, les fondas, quoi, les fondamentaux, jusqu'à 5 mètres, c'est fait sur l'INSEP. Donc c'est là vraiment, en fait, on teste des choses, on apprend la technique. À 10 mètres, c'est la finalité. Et tout ce qui est préparation physique, c'est sur l'INSEP aussi. Donc on va dire qu'on travaille sur l'INSEP et on assemble à Montreuil. Ouais.
Ok, j'avais vu juste avant de commencer à te poser la première question de traditionnelle du podcast, j'avais vu une petite vidéo où on voyait ton entraîneur asiatique. Je crois que c'est l'entraîneur de l'équipe de France d'ailleurs.
Ouais, Rui Tong, ça y est, qui nous entraîne depuis un an et demi maintenant.
Ouais, et qui râlait un peu parce que apparemment il y a des enfants et ça fait beaucoup de bruit durant vos entraînements et c'est toi tu le vois comme effectivement des conditions qui sont un peu défavorables ou c'est quelque chose qui te renforce
Non, ça peut pas nous renforcer, surtout quand on doit affronter le gratin mondial. Ouais. On doit affronter des gens qui ont vraiment énormément de moyens. Et nous, on est le matin dans une piscine publique, donc c'est-à-dire qu'on doit faire les plongeons de compétition, on doit les présenter le matin et travailler l'après-midi. Donc on arrive le matin, il n'y a pas de grosse zone d'échauffement, c'est pas là où on peut commencer à bien s'échauffer au trampoline ou faire les saltos, vraiment faire toute la partie à sec. On a peu de temps parce qu'on a l'eau de 10h45 à midi, donc on a que 4 fois par semaine. En fait, j'ai 4h30 à 10 mètres et je vais pas à 10 mètres, il faut que j'aille dans l'eau, que je m'échauffe, que tout ça. Et donc c'est pas l'après-midi, la plateforme elle est pas assez large pour faire du synchronisé, donc il y a 4 épreuves olympiques, il y en a une qu'on peut même pas travailler. Y a pas les systèmes vidéo, y a pas les jets d'eau, et dans la piscine il y a beaucoup de bruit. C'est pas une piscine où il y a de l'entraînement, c'est là où il y a des enfants qui viennent le matin de l'école, donc c'est même pas des enfants de club ou quoi, donc c'est forcément pas adapté à, c'est pas fait pour faire de la très haute performance, quoi. C'est une piscine publique et on s'entraîne pendant le créneau des scolaires le matin. Donc forcément ça fait râler l'entraîneur parce qu'il peut voir du potentiel. Il a plongé pour la Chine, ensuite il a entraîné au Canada, ensuite il a entraîné en Australie. Donc des grosses nations, forcément lui la Chine, donc avec moyens quasiment illimités. Et donc il arrive en France, il savait pas forcément. Donc nous on y voyait à l'international, il me voyait moi, il voyait Laura, il voyait Mathieu.
Une belle génération.
Il disait il y a quelque chose à faire et ça l'a challengé. Et c'est vrai qu'il arrive en France et s'est rendu compte que c'était pour lui c'est encore plus waouh de dire ok ils arrivent à faire ça comme ça.
Ouais.
Mais il a envie de nous amener plus loin forcément et se rend compte que c'est vraiment pas facile, quoi.
Ouais, ça passe aussi par des notions d'infrastructure et lui, c'est pas forcément.
Forcément, faut. Ouais, pour être bon à 10 mètres, il faut du 10 mètres dans les meilleures conditions, l'après-midi. Enfin, je sais pas, c'est. Formule 1 en s'entraînant en kart, quoi. Enfin, c'est ce genre de choses où c'est un nageur qui devrait être bon en 50 mètres et qu'il a qu'un 25 mètres. Enfin, ce genre de choses, quoi, c'est pas.
Ouais, c'est des petits détails, mais qui fait que, vous avez encore plus de mérite, déjà. Et que, effectivement, au quotidien, c'est pas évident de rivaliser avec les plus grands. On va reparler.
Ouais, on va reparler, parce que c'est vrai que, du coup, tu le dis, on a du mérite, c'est vrai qu'on nous le dit souvent, mais à un moment donné, le mérite, c'est bien, on a du mérite, mais nous, ce qu'on veut, c'est gagner, c'est d'être plus fort, et au final, c'est bien, t'as le mérite, mais t'es pas armes égales et du coup à un moment donné on aimerait bien avoir le mérite d'être aussi premier avec les mêmes moyens que les autres par exemple, quoi.
Ok. Bah attends, tu sais quoi, vu qu'on est lancé, on va changer un petit peu le format de l'interview, ça me fait plaisir.
Désolé.
Non, c'est moi aussi qui suis parti, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir. En fait, vous êtes une génération, une très belle génération, avec effectivement Mathieu et Laura qui ont été champions du monde en synchronisé. Toi t'as été une fois champion d'Europe, une fois vice-champion d'Europe aussi, quatrième à Rio.
Exactement.
Donc très beau le palmarès. Qu'est-ce qui explique selon toi que vous étiez une si belle génération, justement avec face à des grands pays comme la Chine où c'est la nation du plongeon, ils raflent quasiment tout, dis-moi si je me trompe, ils raflent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui explique que vous cette génération là elle est vraiment formidable? Et petit détail, la seule médaille olympique, elle date de 1950.
il y a longtemps.
Ouais, j'avais vu plus de 60 ans, quoi.
Ouais, le plongeon ressemblait même pas vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui, rien à voir.
Qu'est-ce qui explique? Je sais pas, je pense qu'il y a plein de facteurs. On est arrivé sur une période où on a eu des entraîneurs, Gilles Mtozlakot et Alexandre Rochas. Moi, j'ai commencé avec Alexandre tout du long, mais Alexandre commençait quelque part aussi à entraîner. On était son premier groupe, il y avait Gilles derrière. Et ils échangeaient énormément, et en fait, c'était pour moi des as de l'optimisation.
Okay.
Tout était optimisé, quoi. C'était, ils se coupaient en quatre, quoi.
C'est, tu peux donner des exemples?
Ils coupaient les groupes en deux pour pouvoir vraiment s'occuper des gens le plus possible. Vraiment essayer même de limiter ceux de la plateforme s'entraînant en même temps pour pas qu'il y ait à faire d'aller-retour, que l'heure et demie qu'il a accordée, soit à 200%, que tout soit prêt, tout est justement dosé. Faut que ce soit parfaitement dosé, qu'on perde pas de temps, pas le plongeon en trop. Ils étaient aussi très curieux, donc ils étaient fins en préparation physique. Donc ce qu'on pouvait faire en préparation physique, on greffait même du travail qu'on fait normalement de salto, de tout ça, dans l'entraînement sur des séances de préparation physique. Elles étaient mises au bon moment pour qu'on puisse travailler, pas être fatigué. Enfin, vraiment, ils optimisaient en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire que, pour te dire, on débarquait en septembre, ils pouvaient nous dire quelle semaine on serait fatigué 4 mois plus tard, et ils avaient un plan sur l'année, quoi.
Ouais.
Et donc, je pense que ça a énormément joué. Forcément, c'est des bons techniciens, c'était des bons entraîneurs, et ça, je pense que c'est obligatoire pour arriver au niveau. Mais ouais, ils optimisaient, ils connaissaient vraiment le fonctionnement en France. Ils étaient derrière nous. C'est-à-dire qu'ils le vivaient avec nous, cette galère. On sentait que c'était pas bon, il faut le faire et débrouille-toi. C'était, ils en faisaient partie. Ils avaient vraiment leur maximum. Après, je pense aussi, parfois tu tombes sur des profils de plongeurs qui ont un peu ça, qui vont trouver facilement. Tu vois, t'as des sportifs qui vont devoir travailler à l'acharner, c'est-à-dire vraiment répéter jusqu'à épuisement pour devenir très très fort. C'est là où on dit le travail perce.
Ah ouais.
Mais le problème, c'est que t'arrives en France et ce type d'athlète-là, il peut pas forcément percer parce qu'il a, il peut pas forcément travailler de cette façon-là. Cette façon-là, en fait, elle fonctionne pas, quoi.
Ouais.
Et là, on le voit, notre entraîneur chinois, il arrive en France. Pour lui, c'était ça. On lui disait, mais c'est quoi le programme aujourd'hui? Quelle heure? Quel groupe? Et ça, il comprenait pas. Il disait, mais l'entraînement, c'est 9h30 midi, 15h30 à 18h30 et basta, quoi. Et avec le temps, il s'est rendu compte que, fallait s'entraîner à la française, quoi. Donc, ce qui fait ça, c'est que, voilà, t'as Laura qui est, elle analyse tout, elle réfléchit vachement. Donc, en fait, elle s'entraînait vachement en dehors. C'était pas que sur le bassin. Elle analysait ce qui lui correspondait le mieux et tout ça, et elle avait un truc. Mathieu, c'est un génie du plongeon aussi, donc lui, c'est pareil. C'est notre seul pur plongeur. Donc il a toute sa base de quand il a été jeune. Il s'était fait entraîner par un entraîneur chinois aussi, donc il a des bases super solides. Je sais que ça a mis du temps, et puis un jour, en fait, il a décollé, il y a son génie qui s'est révélé, et il se rend compte que c'est une machine. Et moi, j'ai toujours, déjà en gym avant, été déjà régulier en compétition, et pareil à comprendre assez vite les choses. Et je pense que du coup, le fait que je sois un athlète qui fonctionne comme ça, ça correspond en fait à l'entraînement, à ce qu'on peut avoir nous avec nos conditions, et que du coup ces conditions m'ont peut-être un peu moins pénalisé qu'un autre profil, quoi.
Ok, d'accord, je vois. Mais du coup, comment est-ce que t'en es arrivé au plongeon? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'imagine que c'est pas trop le genre de sport que tes parents vont te dire, tiens, à 5 ans, tu devrais aller plonger.
Non, c'est le problème qu'on a, ouais, c'est ça. C'est le problème qu'on a en France, c'est que le plongeon, tout le monde sait ce que c'est, mais on n'y pense pas forcément.
Ouais.
Et parce qu'on le rencontre pas de façon régulière, quoi. On va dans une piscine, mais c'est rare une piscine avec un plongeoir. Donc, pour penser à inscrire ses enfants, il faut que ça soit présent en fait dans la un peu dans la culture, dans tout ça. Donc on va forcément à la baby gym, on va aller apprendre à nager, tout ça, mais si quand on va à la piscine, il y a pas de plongeoir, on va pas les dire tiens, au fait, il y a le plongeon, ça existe, ou c'est qu'on, et enfin, et voilà. Donc déjà, on a peu de piscines, donc on n'y pense pas. Ceux qui y pensent, il y a pas forcément de piscine. Donc c'est compliqué. Donc on se retrouve en France avec beaucoup venir de la gym, parce que vu qu'il y a pas de système de formation beaucoup depuis la base. Ça commence, ils essayent de mettre en place des choses, mais voilà, on le voit sur l'équipe de France, de pure plongeur, il y a Mathieu et c'est tout. Donc c'est du 95% d'anciens gymnastes. Et en fait, récupérer un gymnaste qui a suivi la filière au niveau, qui a déjà cette façon de s'entraîner, cette exigence, cette connaissance de son corps, ses capacités physiques, et ben en fait, on s'est rendu compte que reprendre ça pas trop vieux, vers les 15-16 ans, et reprendre à zéro, ça fonctionne un peu mieux que prendre parfois un plongeur qui a fait du plongeon depuis longtemps, mais qui en fait a des défauts. Ouais. Parce que changer un défaut, c'est beaucoup plus compliqué qu'apprendre tout de suite la bonne chose. Et c'est normal, vu qu'il y a pas de, c'est un peu comme dans tous les sports, il y a le sport plaisir, ce qui est hyper important et qui est la base, mais il y a aussi le haut niveau depuis le plus jeune âge, les groupes compétitions et tout ça. Et nous, on se retrouve avec les RAFO, il y a des piscines, bah c'est soit des gens passionnés, soit des gens qui se retrouvent un peu à entraîner du plongeon sans avoir eu accès à toutes ces formations, à tout ça. Et du coup, bah on n'a pas forcément le vivier de jeunes plongeurs qui ont déjà appris la bonne base, quoi.
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc ça va être plus facile d'aller chercher des gens sur du haut niveau en gymnastique parce qu'ils ont déjà une certaine rigueur, ils ont déjà une base.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment typique à la France. On le retrouve pas forcément à l'étranger. Il y a quelques pays, forcément quelques endroits, il y a des anciens gymnastes qui ont fait la reconversion parce qu'on se rend compte que c'est possible, mais c'est plutôt, on va dire, minoritaire.
Okay.
Et donc moi, voilà, j'étais gymnaste donc en structure, en haut niveau, pôle espoir, j'ai fini au pôle espoir de Vélizy.
Okay.
J'y ai fait 3 ans et c'est là où j'ai fait ma poussée de croissance, donc j'ai grandi. Donc quand on grandit un peu vite, et bah tendinite, les genoux, tout ça, les douleurs de croissance.
J'avais vu que t'avais pris 18 cm en un an, quelque chose comme ça.
18 cm en un an, donc forcément la gym, c'est que impact.
Donc tes cartilages.
Tout ce qui est cartilage et tout ça, ça prenait très cher, donc du coup j'avais pas forcément le droit de m'entraîner. Enfin, je pouvais même pas, j'ai eu des blessures.
Et t'avais quel âge là à ce moment-là?
J'avais de mes 14 ans, quoi, 13-14 ans.
C'est fou, ouais. Okay.
Et du coup, ils n'ont pas pu me garder sur la structure de haut niveau. Et puis voilà, le fait de ne pas s'entraîner, rester au vestiaire 5 heures par jour, un gamin de 13 ans que tu laisses dans un vestiaire 5 heures par jour parce qu'il est en internat, il est dans sa famille, motivation, elle part. Enfin, réussir à déceler d'un coup, c'est plus compliqué. Donc du coup, ils croyaient en moi, hein, j'avais fait champion de France et tout ça. Et ça leur a un peu, je pense, crevé le cœur de se dire... on pensait qu'on arriverait à faire de toi un gymnaste en équipe de France et qu'on va pas réussir, mais on peut pas te garder sur la structure.
Ok. Tu te souviens, toi, de ton titre?
C'est mon entraîneur de gym qui m'a dirigé vers le plongeon. Okay. Parce qu'il l'avait déjà fait, donc il était ami avec Alexandre Rochas, qui était à l'INSEP.
Okay.
Il se connaissait et il avait déjà envoyé un gymnaste avant, Damien Sely, qui a fait les Jeux Olympiques en 2012. Donc, c'est grâce à la personne qui m'a viré.
Donc il t'a dit, ça sera pas possible pour la gym, mais il t'a quand même,
Mais il m'a dit, je pense que t'as un bon acrobate, y a un truc à faire, c'est trop bête si t'arrêtes le sport de niveau, que tu rentres faire cours 8h, 18h, aller au club 2 fois par semaine, tard le soir. Je pense que t'as un truc à faire. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux que je te présente? Je dis, vaut mieux tenter. Enfin, c'est pas de là d'où je viens de base, mais si j'essaye, que ça me plaît, j'ai tout gagné. Si ça me plaît pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté et surtout, j'aurais pas de regrets, quoi. C'est un peu ma philosophie tout du long, c'est pas de regrets.
Ok. Et t'as quel âge à ce moment-là?
15 ans. C'est pendant mes 14 à 15 ans. Je suis rentré au plongeon, du coup, en septembre 2010. Donc, je venais d'avoir 15 ans.
Et comment ça se passe, tu vois? J'en parlais récemment avec Aurélie Muller. Je sais pas si tu vois ce qu'elle fait, nageuse sur 10 km, là elle essaie de se qualifier au JO sur 1500. Et on parlait en fait du fait de redevenir débutant. Est-ce que tu te souviens, après t'étais peut-être un peu jeune, mais c'est pas un peu dur pour un sportif de haut niveau qui est t'as eu des petits titres déjà en junior, de devoir tout rapprendre et d'être le débutant finalement dans un autre sport, quoi.
Si, je pense que c'est forcément difficile. On a des gymnastes de très haut niveau qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont essayé le plongeon et qui n'ont pas accepté ça. Donc, qui n'ont pas poussé l'affaire plus loin, que ça leur convenait pas, mais ils auront tenté. Moi, je pense que j'avais la chance d'être j'étais blessé dans mon vestiaire et tout ça. Donc, déjà, c'était une seconde porte. Donc, c'était une bouffée d'air, une nouvelle opportunité. Donc, je l'ai vu comme la chance de ma vie d'être à l'INSEP qui me faisait rêver, quoi. Déjà, c'était l'objectif d'une vie, c'était de rentrer à l'INSEP. Et là, on me proposait.
Donc tu rentres direct à l'INSEP.
Je suis rentré. Vu qu'il n'y a pas de structure de passerelle, c'est l'INSEP qui est censé faire juste du peaufinage à haut niveau. Les équipes élites, fait aussi de la formation.
Ok.
Et donc, du coup, on me proposait l'INSEP. Donc, c'était. Une promotion. C'était une promotion, donc du coup rentrer à l'INSEP, c'était une grande opportunité. Donc je suis rentré comme un mort de faim, quoi. C'était, on me laisse une seconde chance. J'étais un mort de faim et ça faisait quelques mois que j'avais pas fait beaucoup de gym depuis tant de temps. Donc, du coup, c'était, j'ai pas vraiment vécu le repassage à zéro, quoi. J'étais pas en plein pic de gym et à me dire, bon, je reprends tout de zéro. Ça faisait déjà quelques mois que je faisais pas beaucoup de gym, quoi.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et ça fait quoi d'arriver à l'INSEP quand on a 15 ans? Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent un petit peu plus tard, tu vois. Comme tu l'as dit, c'est surtout du peaufinage, normalement, sur des athlètes de haut niveau. T'es encore un peu jeune dans cette structure, t'as des rêves plein les yeux.
T'arrives, t'es comme un gamin.
C'est déjà Disneyland du sportif.
Ouais,
un peu.
C'est ça, c'est juste d'arriver devant l'INSEP, à l'entrée, de pouvoir y rentrer. C'est tout ça, tu reçois ta carte. C'est une carte de l'INSEP, c'est ta chambre. Peu importe où tu croises, c'est que des champions. L'uniforme de base, c'est le Survêt de France que toi tu rêves d'avoir. Ouais, t'es comme un gamin. Tu te retrouves après l'entraînement. Enfin, moi, tu vois, j'ai une anecdote, je me souviens, on arrive. Ça devait faire quoi? 2 mois qu'on faisait du plongeon. Donc, on n'avait même pas encore fait de championnat régional. On était à l'INSEP, ce qui est déjà pas normal. Tu peux pas avoir aucun palmarès, aucun historique dans ton sport et être là. Et tu te retrouves à la balnéo avec Teddy Riner.
Ouais.
Et ils discutent, tu vois. Et bah alors, vous les jeunes, qu'est-ce que vous faites, quoi? Bah, on fait du plongeon. Ah, c'est cool, tout ça et tout, machin. Bah, vous en êtes où? Ça donne quoi? Et là, on lui dit, bah, parce qu'on était deux à rentrer à ce moment-là, à venir un peu du même entraîneur et tout ça. Donc, on s'est retrouvé là et à dire, bah, on en a jamais fait. On n'a jamais fait de compétition, donc on verra. Pour l'instant, on s'entraîne, mais qu'est-ce que vous faites là et tout ça. Donc elle lui expliquait, et en fait, sa réaction, c'était mais c'est un truc de ouf, c'est génial et tout. Et puis là, il sort du bassin, il demande à tout le monde de se pousser. Il sort, il fait une énorme bombe, et il nous demande alors tu me mets combien, quoi. Et toi, t'es là, t'as 15 ans, tu fais 45 kilos, t'es rien, t'es personne, et t'as Teddy Riner qui te dit alors ma bombe, tu mets combien, tu vois. Et direct, ça a été ça, quoi. Ça a été ah ok, à l'INSEP, c'est tout le monde respecte tout le monde, quoi. T'arrives, t'es rien, le mec il est tout. Et direct il dit oh mais c'est trop cool, t'as une chance de fou, faut la saisir, bah bon courage et tout, cartonne et tout, tu ressors de là et enfin c'est pas que t'es motivé, c'est que on retourne s'entraîner 14 heures de suite, y a pas de problème, quoi, tu vois. Donc voilà.
Ouais, c'est génial. Bon, en tout cas merci pour de raconter la petite anecdote. Ouais, c'est toujours les petites anecdotes qui font plaisir. Mais du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu tes débuts en compétition? Ça vient vite, tu montes vite à 10 mètres?
Alors non, je monte pas vite à 10 mètres, déjà parce que toutes mes blessures sont pas guéries. Donc déjà, les impacts du 10 mètres, c'est pas bon. Et puis, il faut se former au plongeon. Donc, on apprend de zéro, mais on a quand même des habitudes. Ton corps, ça fait, tu fais du niveau, enfin, j'ai fait de la gym pendant plus de 10 ans. T'apprends à ton corps pendant 10 ans à pas arriver sur la tête. Parce qu'en gym, ça tue. Donc, tu as tous les réflexes pour éviter d'arriver par la tête. Et c'est de l'automatisme. Donc, tu sais faire un salto. Là, on va te l'apprendre à la faire version plongeon. Parce que déjà, en gym, c'est que de la vitesse horizontale que tu transformes en verticale. Donc, il y a une technique qui est adaptée. Là, au plongeon, c'est du vertical à vertical. T'as pas cette horizontalité d'une course d'élan, de voilà. Donc, ce que tu fais en gym fonctionne pas. Donc, en plus de rapprendre à, t'apprends de zéro, mais il faut quand même modifier toute la partie, savoir faire un salto et tout ça. Mais il faut aussi apprendre à ton corps à rentrer par la tête.
Ok.
Et tout ça.
Et ça prend du temps.
Et donc ça prend du temps. Moi, j'ai commencé par 3 ans de tremplin.
Ok.
Déjà parce que pour la formation, encore une fois, il y a Montreuil, la plateforme, il y avait accès que le matin. Quand je suis arrivé, la piscine de l'INSEP était pas encore construite. Il y avait l'ancienne qui avait brûlé, donc il y avait que du tremplin de 1 mètre sur l'INSEP. C'est encore pire que maintenant. Donc, apprendre en du tremplin, parce qu'il y a du tremplin l'après-midi, il y a du tremplin le matin, il faut apprendre tout ça, prendre le temps, guérir des blessures, se consolider. Et donc, du coup, on a pris le temps de se former en tremplin pendant 3 ans, mais 3 années junior.
Ok.
Donc voilà, les premières compétitions, donc ces fameux championnats régionaux, que j'ai remporté. Quelques mois plus tard, en février, c'était les championnats de France. Et là, il fallait être dans les 2 premiers pour être en équipe de France.
Ouais.
Parce qu'on nous acceptait à l'INSEP, mais il y avait quand même une règle. C'est, ok, on vous laisse une chance à l'INSEP, mais vous avez 1 an pour être en équipe de France.
Ok.
Voilà.
Et comment t'es sélectionné, du coup?
Et du coup, j'ai gagné le championnat de France.
Ok.
Et du coup, j'ai été sélectionné. Donc, ça a bien fonctionné assez tout de suite. Parce qu'il y a eu ce côté, en moi, qu'on retrouve toujours aujourd'hui. En compétition, j'arrive à être un peu meilleur qu'à l'entraînement. Donc, j'ai réussi dès les premières compétitions à assembler un peu ce que je savais faire de mieux, et ça a fonctionné. Il y avait pas grand monde, Vu que là c'est en année junior et que comme je t'ai dit en junior il y a pas beaucoup de piscines et de sens, il y a pas beaucoup non plus d'adversaires. Donc j'ai gagné mais pas avec un score voilà. Après un mois plus tard on fait donc du coup notre première compétition internationale. Ouais. Donc on reçoit le Pactage France et tout ça, donc c'était assez fabuleux. Du coup c'était le tournoi destination.
Ok.
Et puis je finis dernier quoi.
Ok.
Là tu te rends compte, tu fais ah, ok en fait être le meilleur de France ça veut rien dire quoi.
Ouais.
Être le meilleur de France ça veut rien dire, c'est que là-bas on s'est fait écraser quoi. C'est et là on a bien compris. Ouais, ouais ouais. Petite leçon d'humilité, mais du coup ça nous a plus que reboosté. Et je fais finale au championnat d'Europe junior au mois de juin ou juillet. Donc après un an de plongeon, j'étais finaliste au championnat d'Europe junior. Et okay. Donc j'avais le droit de garder ma place à l'INSEP dans cette aventure. Donc ça, c'était fabuleux.
Ok, t'as beaucoup dit on durant le.
Bah parce qu'on était deux.
Tu m'as dit ouais avec ton, ouais, ton
on
copain.
Était, on était deux. Il y avait Antoine Cattel. Ouais, okay. En fait, lui était donc à ce même pôle. Okay. Mes premières années où j'y suis rentré. Ensuite, il était parti au pôle France junior de Lyon.
Ok.
Et en fait, quand on a passé les tests pour rentrer à l'INSEP, donc les quelques séances de plongeon, bah un jour je l'ai vu débarquer dans la piscine et on s'est regardé en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit mais toi qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, et ben bah, voilà, on se connaissait depuis, on faisait des stages, enfin ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Moi c'était donc par cet entraîneur-là et lui c'était parce qu'il avait connu le fameux Damien Selly. Il était de, parce qu'il a 2 ans de plus que moi, donc il était rentré sur le pôle à l'époque où Damien était encore là.
Ok.
Et donc, lui m'a dit, bah, je veux la gym et tout, j'en ai eu marre, j'ai été blessé, tout ça, et je me suis souvenu de Damien, donc j'ai appelé Damien et j'ai dit, mais comment t'as fait? Est-ce que t'as des contacts? Et donc, par voie différente, mais un peu voilà, on vient du même endroit et on s'est retrouvés au test et on est rentrés tous les deux avec cet objectif-là. Et je dis beaucoup parce que toutes nos premières années, on a fait du synchronisé et tout ça, donc c'était vraiment notre challenge. On se poussait vers le haut à mort et en même temps, on était ensemble, donc on était adversaire quelque part et équipe de synchro. Donc on était ensemble.
Okay.
On était coloc, dire qu'on était dans la même chambre à l'INSEP, et donc c'était vraiment on quoi.
Ok, ouais, je vois le truc. Vous étiez vraiment à faire tout ensemble quoi.
Ouais, voilà, duo, c'était tous les deux notre seconde chance. On était des morts de faim quoi.
Ouais.
C'était enfin on comptait les abdos de l'autre et t'avais pas intérêt d'en gratter un. Mais c'était c'était réciproque et c'était pour se booster vers le haut et. Et je me souviens que ouais, on faisait des circuits training et on était en hurlant, ah là, tu lâches rien, on s'encourageait entre les exercices, on allait se checker alors qu'on n'en pouvait plus, quoi. On avait envie de tomber par terre et on était ouais, des morts de faim.
Mais c'est hyper important d'avoir un bon ou des bons partenaires d'entraînement, quoi. Des gens
c'est
avec
clair.
Qui tu peux
ouais, tout
vraiment
seul,
tirer la bourre.
Bah, c'est important, ouais.
Ouais. Des gens surtout un peu qui ont le même niveau, là, vous avez un peu le même parcours. Bon, lui, il est un peu plus âgé que toi, mais vous avez le même parcours vis-à-vis de la
C'est ça,
et
tous
tout.
Les deux le même challenge, arrivé de zéro, la même seconde chance, entre guillemets. Donc, la même philosophie, parce qu'on vient du même endroit de gym, on a été élevé, en fait, à la même, au même endroit. Donc, on avait. Ouais, ça marchait bien.
Ouais, en plus, c'est un des trucs que je vois souvent un peu, on va dire, dans le monde des gens un peu moins sportifs, c'est beaucoup de se comparer, tu vois, à des gens qui sont pas comparables avec leur propre personnalité, tu vois.
Mm-hmm.
Et c'est vachement beaucoup plus sain, je trouve, d'avoir un partenaire d'entraînement et effectivement, bah, plutôt de se challenger mutuellement et pas en permanence, tu vois, regarder les grands champions ou.
C'est ça,
ou
parce que le
garder avant sur toi, quoi.
L'objectif est déjà. Il est loin.
Ouais, ouais.
Il faut avoir des objectifs qui font rêver, il faut que les champions te fassent rêver. Il faut pas avoir envie de les battre le mois prochain. Ça fonctionne pas, tu vois, et ça fait écho à une phrase que je garderai toujours dans ma tête et qui m'avait été dite par Thomas Bouaï, tu vois, qui est vice-champion olympique en gym. Et on discutait, donc forcément, quand on était petit, il fallait déjà être champion de France, enfin, il fallait être tout de suite, et il nous avait dit, de toute façon, ça sert à rien d'être le meilleur maintenant.
Ouais.
Ce qui compte, c'est de tenir, quoi. Combien qui sont là seront dans les équipes de France parce que bah, les gamins ils vont être à bout parce que avant d'avoir grandi, avant d'avoir changé ton état d'esprit, parce que quand t'es petit bah tu t'es arrivé un peu là sans t'en rendre compte forcément à 12-13 ans tout ça c'est parce que t'aimes bien, il y a les copains, t'aimes ce que tu fais, la gym et tout ça, mais t'es pas encore dans le je le fais pour moi, tu le fais un petit peu pour tes parents, tu le fais un petit peu pour l'entraîneur, ce qui est normal parce que t'es un enfant, t'as pas forcément les repères et tout ça. Et donc, t'as cette seconde phase, je pense, dans ta carrière, le jour où tu te rends compte que tu le fais pour toi, que tout ça, tu le fais pour toi, ces horaires d'entraînement, tu le fais pour toi. Et du coup, là, ça change totalement. Et ouais, ça.
Ouais. Ouais, ce qui change beaucoup, un peu la quête du haut niveau, ouais, c'est effectivement, je pense, tu me diras si je me trompe, c'est effectivement, la capacité à trouver des ressources à l'intérieur de toi pour qui vont te motiver suffisamment pour faire tous les sacrifices qu'il faut, pour faire tous les efforts qu'il faut et traverser aussi tous les moments durs parce qu'il y a des
T'as les deux côtés quand on dit c'est facile d'arrêter quand c'est dur.
Ouais.
Après, il faut savoir reconnaître les deux. Si c'est dur parce que t'as plus envie, mais que ça traîne, ça peut être que il y a pas à en avoir honte, que t'as plus envie, que tes envies ont changé, tes objectifs ont changé. Il faut juste être honnête avec soi-même. Mais arrêter première difficulté, c'est trop facile. Je veux dire, dire que ça fonctionne quand tout fonctionne, c'est aussi trop facile. Donc c'est le tout. Faut prendre le tout. Donc t'es obligé de mettre plusieurs objectifs. T'as tes objectifs ultimes, ce qui te fait rêver, ce qui va te mettre un peu les étoiles dans les yeux le jour où vraiment c'est difficile et que t'as pas envie d'aller à la piscine, bah tu penses aux anneaux olympiques et la piscine t'y vas.
Ouais.
Mais si tu mets que cet objectif-là et que c'est pour dans 6, 7, 8, 10 ans, ton objectif, comme tu l'auras pas pendant ces 10 années, t'auras pas de bonheur. Donc il faut mettre cet objectif-là, qui des gros objectifs qui font rêver, qui font surpasser, qui font tenir, mais il faut aussi des petites étapes pour avoir de l'accompli de temps en temps, quoi. Ça peut être des petites choses toutes bêtes, ça peut être des résultats, mais ça peut être des petites choses toutes bêtes.
Et toi, par exemple, t'as des petits exemples là. Je vois que t'as effectivement un anneau avec les anneaux olympiques au doigt.
Ouais.
Donc on sait que c'est quelque chose qui te drive et on en reparlera juste après. Mais t'as des petits exemples là de tes petits objectifs actuels qui peuvent paraître un petit peu insignifiants et qui finalement toi te font avancer.
Oh, il y a plein de choses. Ça peut être augmenter ton pourcentage de réussite à l'entraînement. Et on sait que si t'en réussis 1 sur 10, bon, t'as une chance sur 10 presque. Et encore, si tu perds tes moyens à la compét, donc tu peux essayer de, bah, cette séance-là, j'en ai réussi 2 sur 10, c'était mieux. Mmh. Donc, t'as cette chose-là. Si c'est un peu du physique ou tout ça, bah, faire mieux que la fois d'avant ou battre le copain, ça peut fonctionner. Ça, après, c'est vachement, je pense, c'est vachement personnel, ça dépend de la période, donc c'est...
Ouais.
Mais ouais, des petits objectifs qui sont sur le moment. C'est... Si, je sais pas, tu fais une saison excellente l'année dernière et que cette année, t'as un peu plus de mal, si ton objectif, c'est d'être meilleur que la saison d'avant, là, tout de suite, maintenant, faut que ce soit l'objectif. Mais si dans les petites étapes, ton objectif, c'est d'être meilleur que l'année dernière, alors que là, t'es en passe difficile, tu vas t'enfoncer. Donc là, bah, on oublie un peu ce qui s'est passé, faut que je sois meilleur que la veille, quoi, par exemple.
Ouais.
Pour remonter un peu...
Et t'avais, toi, un carnet d'entraînement? Ou non, t'as pas été
du
genre.
J'ai tout dans ma tête.
Non, parce que je rencontre. Moi, je, personnellement, j'en ai un. Après, j'ai un carnet pour à peu près tous les segments de ma vie, on va dire. Mais j'écris beaucoup. Mais je vois de plus en, enfin, je vois beaucoup de sportifs, tu vois, avoir un carnet, se mettre les objectifs à l'année, les objectifs au mois, et c'est vrai que tout le monde, enfin, c'est pas adapté à tout le monde. Tu vois, il y en a qui arrivent à s'en souvenir, quoi.
Non, moi, c'est dans ma tête et c'est malléable. Et je pense que c'est là où peut-être ça peut être un piège aussi, ce carnet. Tu peux écrire, je pense, des choses dedans, mais si tu restes enfermé à ce qui est écrit,
ouais.
Bah voilà, tu peux encore une fois en début de saison de dire bah je fais mieux que l'année dernière ou j'en étais où après un mois de reprise et tout ça, et en fait ça peut, enfin ouais, voilà, tu peux, quoi, tu peux d'un coup côté, ouais. Tu passes une sale nuit, t'arrives le matin, t'es pas bien, tu te mets dans la mauvaise spirale, enfin ouais. Faut pas non plus rester sur le faut s'adapter à soi-même, quoi.
Ok.
Je pense, moi, ouais. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, donc c'est plus dans ma tête.
Ok. Pour rebondir sur les JO et ta bague là que je vois depuis tout à l'heure, qui est très stylée d'ailleurs. Et
merci.
À partir de quel moment t'as eu ce rêve là? Il vient à quel moment, le rêve olympique? C'est l'INSEP peut-être, ou c'est peut-être un peu plus tard?
Franchement, c'est une question difficile.
Ouais.
Je pense qu'il a grandi. Il a grandi au fur et à mesure, parce que t'en es tellement loin. Tu en étant enfant, dire un jour je ferai les Jeux Olympiques. Je sais que ça, je l'ai dit à une de mes premières entraîneurs de gym.
Ouais.
Je devais pas avoir plus de 5 ans.
Non, mais c'est dingue.
Je lui ai dit un jour je t'emmènerai aux Jeux.
Tu te rends compte, c'est pas anodin. Moi, je vois plein de petits enfants autour de moi et ils se disent pas je vais aux Jeux Olympiques, tu vois.
Ouais, mais est-ce que tu vois cette phrase là pareil, c'est un peu comme je disais l'évolution de pourquoi tu le fais tout ça, c'était un peu anodin, c'est un enfant qui dit un jour je t'emmènerai aux Jeux Olympiques, mais
ouais, c'est un peu une
il en rêve, mais c'est pas, il va pas mettre en place les choses pour y arriver, se rendre compte de ce qu'il est né capable, où il en est, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout ça, ça vient petit à petit. Donc t'as eu cette première chose là, donc c'est vraiment depuis tout petit, je pense que j'étais en contact avec les jeux. Je sais que plus tard, je me suis rendu compte de l'émotion que faisaient les jeux, parce que on a pu regarder, on était en stage de reprise avec le pôle, on a regardé les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et on a vu Thomas Bouaille, encore lui.
Ouais.
il est pas pour rien dans mon histoire. En fait, il apparaît de temps en temps.
À des moments
il le sait pas, je pense, mais il apparaît. Et on le voit, en fait, faire sa finale. Et en fait, ouais, dans la salle avec nous, dans les entraîneurs du stage, il y avait son entraîneur qui l'a formé à Saint-Denis.
Ok.
Et donc là, on s'est rendu compte de comment les entraîneurs qui, vraiment, eux, le connaissaient, comment eux vivaient cette finale. Enfin, l'émotion que ça dégageait, quoi. C'était pas juste on regarde du sport et tenez les gamins, regardez, c'est ça qu'il faut faire. C'est, ils le vivaient, ils transpiraient pour lui. Ils étaient touchés. Parce qu'ils le connaissaient. Et moi aussi, comme je le connaissais, parce qu'il s'entraînait, j'avais fait des stages à Saint-Denis, donc on l'avait rencontré, il était vachement accessible au championnat de France et tout ça. Il m'avait déjà dit cette fameuse phrase du faut pas être fort maintenant, tout ça. Faut pas être fort. Il a pas dit faut pas être fort. Il faut être fort, mais c'est pas le plus important, quoi. Si t'es pas le numéro un français maintenant, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est continuer, persévérer, parce que ce qui va payer, c'est dans 10-15 ans. Et moi, voilà, c'est pareil, de voir quelqu'un au jeu, mais ça me donnait un repère parce que je le connaissais. C'était plus que pour les autres et ce qu'on voit à la télé. C'était quelqu'un avec qui j'avais déjà discuté dans la vraie vie, quelqu'un que je m'étais déjà entraîné dans la vraie vie. Et ben, je le voyais. Et en fait, du coup, ça, concrétiser les choses, comme quoi c'était les jeux, c'est pas un truc qu'on voit à la télé, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est concret, c'est un événement, ça se produit et ça arrive vraiment, quoi. Et là, ça a pris déjà une seconde forme, et puis après forcément à l'INSEP, quoi, l'INSEP c'est fait pour ça. Et même dans l'INSEP, parmi les gens qui sont en équipe de France, qui te font déjà rêver et tout ça, bah t'as ceux qui ont fait les jeux et ceux qui les ont pas encore fait.
Ouais.
Tu vois. Et du coup, bah, t'es pareil, tu veux accéder à l'équipe de France, puis une fois que t'es en équipe de France, tu dis, ok, maintenant, je veux avoir le droit de porter les anneaux, quoi, ce genre de choses. Et voilà.
Et, comment ça se passe pour toi? T'y arrives facilement? Tu rentres facilement en équipe de France, tu dis que t'avais terminé dernier à cette fameuse compétition de tournoi destination. Mais à quel moment que ça commence vraiment à s'enclencher et tu commences à avoir des résultats, parce que il me semble que l'année des Jeux, les années d'avant, t'avais déjà plusieurs résultats, t'es plusieurs fois champion de France en plus.
Bah déjà cette année-là, donc première compétition, on se fait écraser. Il y a derrière donc le tournoi de Dresde en Allemagne, et là c'est plus les 6 nations, il y avait 26 pays.
Mmh.
Donc déjà pour moi j'étais comme un dingue, première rencontre avec les.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Avec les Chinois, déjà voir les Chinois s'entraîner et tout ça, bah moi j'avais pas encore de repère de plongeon, mais je savais de la gym, c'était la Chine, c'est la perfection, c'est donc là déjà de m'entraîner avec eux, donc j'étais en compète, mais en même temps j'étais au spectacle, parce que ça faisait 8 mois que je mangeais, vivais, dormais plongeon, parce que j'avais un gros objectif en peu de temps, et là bah tu rencontres ces équipes nationales, tu te rends compte un peu de tout ça, la compète se passe plutôt bien, mais bon, en 2 mois, le niveau n'a pas bondi, tout ça. Je dois faire 20e, un truc comme ça.
Ouais.
Pareil, gros concours, vu qu'il y a 26 nations. En junior, il y a 10 plongeons, donc ça doit durer 5 heures, les éliminatoires. Enfin, tu rencontres, tu arrives un peu dans la vraie vie, quoi. Dans ce que c'est vraiment le plongeon international. Ensuite, eh ben, on fait finale au championnat d'Europe en synchro et moi je le fais en indiv également. Donc déjà tu dis oh bah c'est bien pour une première saison quoi, c'est enfin voilà, finale au championnat d'Europe. Et puis on revient donc 8 mois plus tard, donc il y a le même tournoi de Dresde et je le gagne.
OK.
Donc moi je me suis dit l'année prochaine je serai en finale, tu vois, c'est top 12. Et puis je l'ai gagné. Donc je gagnais un tournoi avec 26 pays après un an et demi de plongeon. Donc les résultats sont venus quand même assez vite. Ensuite, je dirais que ça c'est vraiment quand je suis passé à 10 mètres.
Ouais.
Quand je suis passé à 10 mètres, ouais, je pense en...
Et c'est en quelle année que tu passes sur 10 mètres?
Donc, je passe à 10 mètres en septembre 2013, donc les premières compétitions, février 2014. Je vais faire finaliste au championnat d'Europe senior. Donc, moi, je voulais pas aller à 10 mètres. Je voulais pas. J'étais bien à 3 mètres parce que c'était... ça rebondit, ça ressemble un peu à la gym, c'est pas trop...
Ouais. Mais c'est pas une discipline olympique, je crois.
Si, le 3 mètres est olympique.
Le 3 mètres
est olympique. Okay. Le 3 mètres et le 10 mètres et le 3 mètres synchro et le 10 mètres synchro. Okay. C'est les 4 épreuves. Ouais. Et mes derniers championnats d'Europe junior à 3 mètres, je fais 4e. Je me dis, bon, je suis dans les top 4, top 5 européens à 3 mètres et ils sont tous là en train de me dire, bon, faut arrêter les bêtises, maintenant faut monter à 10 mètres. Je dis, bah, non, ça se passe bien. Enfin.
Ouais.
Pourquoi vous voulez que j'aille là-haut? Ça fait mal, ça fait peur. Faut apprendre des choses parce que c'est le 3000, la plateforme c'est pas du tremplin, donc il y a à reprendre de zéro. Voilà, ouais. La plateforme t'en as jamais fait, t'as jamais mis vraiment les pieds là-haut et là voilà. Donc on t'a repris à zéro en 2010, tu te déchires, t'arrives dans le top européen junior et puis là on te dit bon, faut recommencer. C'est pas possible. Voilà. Mais ils m'ont eu à l'usure. Ils se sont tous mis contre moi et puis ils avaient raison. Bon, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire qu'ils avaient raison, que ça correspondait à mes qualités, quoi.
Ok. Ah mais tu penses que on te l'a recommandé parce que t'avais plus des qualités.
Oui, parce qu'en fait un tremplin pour pouvoir faire les grosses figures, c'est à toi de te créer la hauteur. Donc il faut beaucoup de force. Et moi j'ai un physique plutôt fin, plutôt léger, mais très explosif. Okay. Donc le physique fait pour le 10 mètres, mais ouais, on m'a dit t'auras de quoi faire les plongeons à 3 mètres. Mais t'auras jamais la hauteur.
Ah, ok.
Et quand t'auras pas la hauteur, t'auras pas les notes. On dit, tu feras des bons résultats à 3 mètres. Mais maintenant, si tu veux être sur les podiums, ta place, c'est là-haut. C'est un peu dur à ingurgiter. C'est vrai, quand on est presque sur les podiums, en à peine 3 ans, on se dit, en à peine 3 ans, je gagne des tournois internationaux, je suis presque sur les podiums, j'étais déjà en équipe senior, en tremplin. Ouais. Donc, du coup, tu dis, remettre tout à zéro, aller à 10 mètres, c'est pour vous être sûr. et ils étaient sûrs. Et ils ont eu raison parce que saison 2014 c'est la première saison et je fais finale Europe senior et après 2015 je fais finale au championnat du monde, je fais 5e, ce qui était ce qui est notre meilleur résultat en championnat du monde, 5e place. Donc un an et demi de 10 mètres et je me qualifie au jeu, donc ils avaient raison.
Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe la première fois que tu sautes à 10 mètres? Tu flippes un peu?
Grave.
Ouais.
Ah ouais, c'est haut.
On en parle un peu de... Est-ce qu'on peut parler un peu de cette peur du plongeon? Est-ce que ça existe?
Ah oui, la peur du plongeon, ça existe. Après, c'est pas forcément... On va dire que quand on monte pour sauter la première fois, en fait, on a peur de la hauteur.
Ouais.
Parce qu'il peut rien nous arriver d'autre que la hauteur. Je veux dire, quand tu montes, t'es déjà plongeur, déjà acrobate, tu connais bien ton corps, t'as déjà sauté de 5, de 7 mètres. Quand tu montes à 10 mètres, tu peux pas t'arriver un plat, tu peux pas toucher la plateforme. Parce que tout ce qui est triste, c'est juste t'as peur de la hauteur et faut y aller, faut sauter, donc passer au-dessus de ta peur, quoi.
Ok.
Et un jour, il y a le plongeon qui arrive. Et ça dépend du plongeon, mais en général, ce qu'on a peur, c'est de se perdre. On va pas trop avoir peur de toucher.
Ok.
Mais là où on a peur, c'est se perdre, quoi. Tous les acrobates connaissent ce moment où t'es en l'air et d'un coup, t'as un bug, concrètement. Et tu dis, mais j'en suis où? J'ai la tête à l'envers, j'ai la tête en bas. Donc, en général, tu ouvres, tu déplies la position et puis tu vois le plafond. Et le temps de comprendre dans quel sens t'en es, qu'est-ce qu'il faut faire, t'es déjà arrivé en bas. Et en fait, ça fait mal. En général, il va y avoir un plat. Mais ce qui te marque, c'est pas le plat. C'est vraiment de t'être perdu, cette sensation d'avoir perdu le contrôle, de plus savoir où t'es, de plus savoir où t'en es, parce que le plat, tu t'en remets en quelques minutes. Si t'as eu des gros bleus, une semaine, t'as pu avoir de bleus, mais tu te rentraînes dans la minute d'après. Par contre, ça, tu peux mettre des années.
Ouais.
Des années à dire où j'en suis, est-ce que je me fais confiance, est-ce que je fais confiance à mon corps, à mes automatismes, et là, de nouveau, c'est lancer, passer à 10 cm de la plateforme, lancer 3, 4 tours, à 10 mètres de hauteur, arriver à 60 km/h dans l'eau en te disant est-ce que je peux me faire confiance, est-ce que ça va pas se reproduire et tout ça, ça c'est vachement dur.
Ouais. C'était déjà arrivé toi ?
Ça m'est déjà arrivé.
Ouais. Comment tu fais pour que ça t'arrive plus ?
Déjà, faut pas y penser.
Ouais.
Parce que, encore une fois, ça va très très vite et c'est beaucoup de sensations et d'automatismes. Donc, à partir du moment où tu veux prendre la main sur un automatisme, c'est plus automatique et ça va plus assez vite. Il y a un nombre d'informations, 3 tours et demi, ça dure 1 seconde 5. Il y a un départ, une prise de position, une analyse de trajectoire, 3 tours à faire, une ouverture, attraper ses mains, chercher une verticale, tout ça. Ça prend beaucoup de temps rien qu'à dire, à y penser. Donc, si tu prends la main dessus, bah, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Si tu cherches à savoir exactement combien de saltos t'en as, mais disons consciemment, si on compte 1, 2, 3, c'est déjà trop tard. C'est pas aller assez vite. Enfin, il faut que ce soit automatique. Donc, pour pas que ça arrive, il faut ne pas y penser. Donc, pour ça, on mange de la base pour qu'il y ait de l'automatisme, de la confiance qui se recrée, ne pas y penser. Après, parfois, si on y pense trop, si on va au bout de la plateforme en se disant ça a mal se passer, ben, on y va pas, quoi.
Ouais.
Ça arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé. J'étais au bout de la plateforme. Je devais partir en vrille arrière. Et en fait, j'étais au bout en train de me dire. J'arrive pas à voir le film, quoi. Je sais pas comment on fait. Je vois pas comment je vais faire, je vois pas ce que je vais voir, je vois pas ce que je vais ressentir en l'air. Donc j'ai dit, ouais, je peux pas. Je suis redescendu à 5 mètres, faire l'éducatif, ça m'a rafraîchi la mémoire, et puis je suis remonté et je l'ai fait.
Ouais. Ouais, en fait, ce que t'es en train de... Parce que, dis-moi si je me trompe, mais en fait, essaye de faire en sorte que les choses elles soient de plus en plus automatisées et que t'aies même plus le temps de... les intellectualiser, quoi.
C'est ça, on se concentre sur 1 à 2 éléments maximum. Un point technique.
Okay.
Qui défile, en général, il est concentré sur le départ, parce qu'on le sent une fois que ça sent, les choses s'enclenchent bien, après ça coule de source, donc ce point sur lequel on se concentre, en général, il est plutôt au départ.
Ouais.
Mais ça peut être très con, quoi, se sentir solide sur les abdos.
Ok.
Mais le fait d'être solide, eh ben, fait que, on sait que le corps va pas se déformer, donc la trajectoire va être bien verticale, parce que, voilà, si le corps se déforme et se penche un peu vers l'avant, bah, on passe plus à 15 cm de la plateforme, mais à 2. Donc, sentir ça, en fait, te rassure, le fait que tu vas être solide sur les abdos, donc tu vas pas bouger, et puis, du coup, le mouvement est bien fluide et coordonné et tout ça, donc c'est, chacun un peu son truc, mais,
Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, tu parles de concentration, je voulais t'en parler un peu, parce que, dans les vidéos qu'on voit de toi, quand t'es justement en haut de la plateforme et tout, on voit que t'es hyper focus. Mais on voit que t'es hyper focus. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ?
Ben, j'ai peur comme tout le monde. C'est juste, on a fait pas mal de fois la réflexion de dire au jeu là, en final, t'avais l'air serein sur ta plateforme, dans ton truc, droit, pas forcément d'expression, de. Mais j'étais dans les escaliers, le cœur à 200, à chercher de l'air pour que ça respire. Enfin, c'était tout ça, mais. Tu rentres dans sur la plateforme, tu te mets dans ton truc, tu penses à la consigne de ton plongeon. Moi, souvent, j'essaie de me dire de profiter parce que, en fait, c'est peut-être un petit peu comme tu le retrouves dans d'autres sports, le 100 mètres et tout ça. Tu peux faire un peu que tes temps, et ben, avec l'adrénaline de la compétition. Bah là, c'est un peu pareil. T'as accès à une énergie que t'as pas accès à l'entraînement. Tu peux pas arriver à l'entraînement et te dire, j'ai la stimulation d'une finale olympique avec le public, la transe, quoi.
Ouais.
Bah là, ça, t'as accès à ce moment-là. Donc, tu dis, bon, le plongeon, ça va envoyer grave. Que tu sois fatigué, pas fatigué, tes jambes, ça va être du feu. Donc, profite. Et surtout, gère-le. Donc, voilà. Essaye de penser un peu rester dans ce que tu sais faire.
Ok, ouais. Mais c'est marrant que tu parles un peu de, enfin, que tu compares ça au sprint parce que c'est vrai qu'il y a moi, je vois beaucoup de sportifs que la pression, ça fait un peu s'écraser. Tu vois, qui ont du mal à la gérer. Et c'est vrai que j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui fait psychologiquement que certains arrivent à se surpasser et d'autres n'y arrivent pas.
Bah, si t'as la clé, change de métier. C'est hyper compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus de l'intérêt de la préparation mentale. Parce que voilà, les gens, c'est ce qu'on appelle, nous, un champion du monde de l'entraînement.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est trop fort, enfin qui est fort à l'entraînement, on se dit il va tout cartonner et puis il arrive et ça sort pas. Et essayer de comprendre, là c'est vraiment de la psychologie. Je pense qu'aujourd'hui on avance pas mal parce qu'aujourd'hui c'est plus un aveu de faiblesse que d'en avoir besoin. Moi j'ai ma méthode de travail, comme je l'ai dit depuis tout jeune en gym. On m'appelait le métronome, quoi. C'est mon coach de gym pouvait sortir à l'avance combien de points j'allais faire sur le concours, quoi. il était plutôt serein et les gens autour de la, dans le milieu du plongeon me disent, ouais, quand tu es au bout de la plateforme, on, ça peut arriver de rater, mais on n'est pas inquiet que tu rates, quoi. C'est, donc, moi, j'ai cette chance, au moment où il y a la pression, bah, je rassemble mes capacités et j'arrive à être meilleur que à l'entraînement, en tout cas sortir le meilleur du moment. Qu'est-ce qui fait la différence? Peur, plein de choses. Je pense que c'est en plus de c'est même pas une recette. Je pense que c'est une recette personnelle, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est ça en plus. C'est ultra complexe. Et je pense que tu peux avoir toutes les sauces, quoi.
Ouais. Et toi, bah, du coup, t'as fait. Enfin, moi, je t'ai connu en tout cas à Rio, parce que tu fais quatrième. Tu fais quatrième ce jour-là. Mm. Bon, j'ai lu dans des petits articles un petit peu hier soir en m'enseignant un petit peu que ça avait été dur pour toi l'après. Le très quatrième, dur. Mais pourtant c'est ta meilleure, c'est ta meilleure perf mondiale. Comment est-ce que tu, est-ce que t'es arrivé là-bas en te disant je vais être médaillé et je vais
non
là-bas.
Clairement pas.
Tu vois?
Non. Ça faisait pas longtemps que je faisais du 10 mètres. Bon, l'année d'avant je fais cinquième. Cette saison-là je fais des plutôt bons résultats, mais surtout je me blesse. Beaucoup.
Ouais.
Donc début février, fin février, je me déchire le psoas. Donc je pouvais plus lever la jambe, je me déchire le muscle sur je sais plus combien de centimètres, mais du coup un mois d'arrêt. Parce que ça remonte jusque dans les abdos, ça descend sur la cuisse, donc tu peux pas travailler forcément les abdos, enfin tu peux rien faire. Donc reste au sol,
le psoas, okay, c'est une horreur. Ouais.
C'est une horreur, donc super. Je reviens, donc début avril. Je fais deux compètes qui se passent plutôt bien, mode reprise, enfin un peu galère, parce que c'était moins bien qu'avant de se blesser forcément. Donc c'était bien si on objectivement c'était bien, mais comme c'est l'année des jeux et que les jeux arrivent à grands pas, t'as envie d'être meilleur que ça. t'as pas forcément toute ta patience, quoi. Mmh. Et là, j'ai la bonne idée de tomber dans les escaliers du métro et de me fracturer le sacrum.
Oh putain.
Et là on me dit bon bah tu vas prendre 2 mois et demi.
Ah, ouais.
Ouais mais les gars on est mi-avril là. Ah bah ouais, mais si tu veux que je te dise, le sacrum, il est fracturé, il est déplacé. Là, mon garçon, les impacts du 10 mètres, tu vas pleurer. Ok, et du coup, j'ai repris mi-juin. Donc j'arrive au jeu un mois et demi après. Encore des douleurs, vu que la reprise, elle se fait vachement vite, et bah il y a un peu d'inflammation, de tendinite, le dos qui coince un peu, parce que bah t'es sur une course effrénée. Donc j'arrive au jeu en me disant bon bah déjà je vais les vivre. J'avais tellement peur de me blesser que même une fois qu'on était sur place, moi je passais le dernier jour. Donc on était sur place le dernier jour et je dis mais je dirais que j'aurais participé au jeu quand j'aurais fait au moins mon premier plongeon. Donc pour l'instant j'y suis, je suis sur place, mais tu vois pendant les jeux je me fais mal à je sais plus à une épaule ou quoi et j'ai fait une IRM sur place. Pendant la semaine de prépa sur place au village olympique. Donc je me disais mais putain, ça s'arrêtera jamais quoi. Genre j'aurais fait les jeux. Le jour où j'aurais au moins fait un plongeon, j'aurais mon nom sur la feuille, quoi.
Ouais, t'avais peur d'être le fantôme.
Je peux me tuer au premier plongeon. Enfin, je peux me casser, je peux me fracturer ce que tu veux, mais au moins j'aurais fait un plongeon, il y aura mon nom sur la feuille et j'aurais participé au jeu, quoi. Donc, tu vois, j'arrive en me disant, bah, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je savais que j'avais ça en moi, le côté, je peux sortir quelque chose de il y a un an. Tu vois, de mon niveau d'il y a un an, sur un coup avec l'adrénaline, je sais que je peux le sortir. Donc, il est pas là, il se voit pas, mais il est pas loin. Donc, j'espérais que ça se manifeste à ce moment-là. Et je me disais, bon, bah si j'arrive en demi-finale ou en finale, et bah ce sera bien. Donc, je m'en sors quatrième, mais je visais pas... Même au début de la finale, je visais pas la médaille. Enfin, je me rendais peut-être pas compte qu'elle était était possible. Mais je pense que ça a été un avantage. C'est que j'avais pas la même pression que les autres, quoi.
Ouais.
J'étais en mode, je profite, l'aventure se continue. Enfin, la dernière fois que je me suis entraîné, c'est début janvier. Entre temps, j'ai été blessé 4 mois. J'ai déjà la chance qu'on me laisse partir, de les faire, de là, de pas être blessé ce jour-là. Ça fait 2 ans et demi que je fais du 10 mètres. Je suis au jeu, je suis en finale. Bon, bah, lève les yeux. Il y a la famille dans les tribunes. Profite, régale-toi, quoi.
Ouais.
L'après était plus dur.
Bah, tu peux nous raconter un petit peu cette finale et un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce qui a fait que c'était dur finalement, parce que là tu fais une super compétition, on le voit, tous tes plongeons, ils sont quasi parfaits. Je sais plus qui est la commentatrice, mais voilà, elle dit que au niveau.
C'était Claire Vauquier, ouais.
Ouais, elle dit au niveau France qu'on a quasiment jamais vu ça, que tu vois, c'est génial. Toi, on voit que t'es vraiment focus. T'es devant des mecs qui sont la crème de la crème mondiale,
ouais,
tu vois.
J'ai pas pu, ouais.
Et
tu es mon idole, j'étais content.
Et après, je sais pas, il me semble que t'as pas tenté un saut que tu voulais tenter, qui t'aurait peut-être donner des points de prise de risque en plus ou...
Non, j'avais des plongeons plus faciles que les autres, parce que j'avais un plongeon que j'arrivais pas à... Enfin, que je mettais... Tu vois, le fameux truc qu'on discutait tout à l'heure, de tu pars en l'air et là, bah, j'ai ouais. fait 4 tours et demi en avant, j'étais sûr que quand j'allais, c'était l'eau, puis en fait, c'était le plafond, quoi.
Ouais.
Et je l'ai repassé que là, maintenant, donc tu vois, j'ai mis 4 ans à le repasser. Avoir la confiance pour le faire à 10 mètres. Donc j'avais pas les plongeons suffisamment durs, mais comment ça s'est passé? J'essaie d'en profiter, toute la partie défilé, tout ça, de lever la tête, d'essayer de voir mes parents, d'être en tenue de défilé France Olympique, en finale olympique, c'était truc de fou. Donc j'essaie d'en profiter à mort. Je me souviens avoir demandé à mon entraîneur de faire poker face.
Ouais.
Tu vois, je lui ai dit, si jamais, je lui dis, je sais pas, mais si je suis grave chaud, que je suis en position de médaille entre les plongeons, et comme d'hab, pas de stress, je sais même pas si je vais suivre les résultats, je sais pas forcément où j'en serai, tu me coaches comme d'hab. C'est, je sors de l'eau, tu corriges, tu me dis quoi faire, tu me prépares pour le plongeon suivant, mais t'arrives pas en mode, c'est pas fini, enfin, je veux pas, on fait comme d'hab, quoi, fallait vraiment que ce soit comme d'hab. Et ça s'est fait comme d'hab, ça s'est bien passé. Je sais que je suivais assez le concours, mais je me suis rendu compte que la médaille en fait était possible au début du dernier tour.
Ouais.
Mais qu'il fallait que les gars chient.
Ouais.
Parce qu'ils étaient quand même 18 points, c'est énorme. Enfin, c'est le score final, donc c'était possible parce que c'est la finale des jeux, eux savent qu'ils sont en posture de médaille, donc ils ont une pression maximale. Et je les vois passer, et moi quand je monte sur la plateforme, je sais que c'est mort, il faut que je le fasse à 10. Mais un plongeon que j'ai jamais fait à 10, et je finis par mon plus dur, je suis éreinté. Donc je pars au bout, c'est là vraiment il y a le stress, et j'ai des images dans la tête où je me dis, tente tout. Il n'y a pas de regret, on est arrivé jusqu'au bout, on a bien bossé, là maintenant ça relève l'exploit parmi l'exploit, quoi, l'exploit au bout d'un exploit. Et donc je donne tout, mais ça suffit pas. Le plongeon est bien, il prend 8, un truc comme ça, donc c'est 8 et demi, c'est un bon plongeon, mais ça suffit pas pour aller gratter cette troisième place. Et donc du coup, bah immédiatement vidé. Ouais. Immédiatement le merde. Prochain coup, c'est dans 4 ans.
Mmh.
On peut pas revenir dans le passé. C'est le moment où on se rend compte vraiment que on peut pas remonter le temps. Que c'est trop tard, on a qu'un seul essai. Je l'ai pas raté, mais il y a qu'un seul essai, il y a qu'une seule version de l'histoire. Et le prochain coup, c'est dans 4 ans. Et ça fait même pas 4 ans que je fais du 10 mètres, donc ça me paraît une éternité, parce que c'est plus long que ma carrière entière, à 10 mètres. Donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en plus, on vient me chercher pour le contrôle antidopage. Je me dis, putain, mais je suis déjà au bout de ma vie, je suis claqué, j'ai envie d'aller voir ma famille. Forcément, avec le stress, t'as fait pipi toute la compétition, donc là, t'as pas envie. Puis j'ai mis 3 heures à le faire et mes parents qui m'attendaient, et puis je suis sorti le dernier de la piscine, l'équipe était repartie, tout le monde était reparti au village, c'était la fin, c'est le dernier jour des jeux, je vais voir ma famille et puis bon, on se retrouve au Club France et j'étais fatigué, quoi. Ouais. Fatigué, dégoûté.
Ouais, t'avais pas envie de faire la teuf, t'avais pas
non,
envie
non,
de...
Non, je l'ai pas faite.
Ouais.
Mes parents plus restaient sur Rio, moi je suis rentré en France, je suis allé m'enterrer sur mon canapé, quoi.
Ok.
Ah ouais.
Et il me semble que t'as fait, ça a mis plusieurs mois avant que tu t'en remettes. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que tu te sois relancé?
Mon deuxième rêve.
Ouais. Qui est?
Pilote de chasse.
Ouais.
C'est ce que je veux faire, depuis tout petit. C'est au même âge où je disais je t'emmènerai aux Jeux Olympiques et je dirais je t'emmènerai sur un porte-avions.
Ok.
je serais pilote de chasse. Ça remonte aussi loin qu'on peut remonter. Donc dans ma chambre il y avait du sport et des avions. j'avais fait une croix sur ce rêve, parce qu'il y avait un âge limite à l'époque où les jeux, ça commençait à sentir bon et qu'on m'avait laissé cette chance de plongeon. C'était un âge limite de 21 ans et ces 21 ans, je les avais à Rio. Donc bon, il y en avait un qui était possible et j'avais travaillé déjà pendant... Parce que je pense que le travail de la gym est continu du plongeon, donc du coup, j'avais travaillé pendant longtemps.
Ouais.
Et j'étais passé par pas mal de choses et là, j'avais cette opportunité d'accomplir ça. Donc forcément, j'allais au bout et j'avais fait une croix sur ce deuxième rêve. Et puis, quand j'étais en train de mourir sur mon canapé, je sais pas pourquoi, je suis retombé sur des reportages que je regardais plus tôt, plus jeune. Puis à un moment donné, je sais pas, je me suis retrouvé sur Internet et puis tu te retrouves en fait sur les sites de recrutement, sur tout ça. Et puis, il y a un petit endroit, je sais même plus où ou quoi, je le lis. Depuis, je sais plus, fin 2014, un truc comme ça. Donc, pendant où moi j'étais pleine bourre et que j'avais fait une croix sur ce rêve à un an et demi des jeux où j'avais du coup, puis je me renseignais plus pour me protéger un peu aussi. La limite a été repoussée. Donc, c'est en train de me dire que ce sera encore possible. Et moi j'avais du temps de vacances, autant de temps que je voulais quasiment. Reviens quand tu seras prêt à revenir. On était sur une période où les relations avec l'entraîneur étaient plutôt compliquées. Je pense qu'on était allé au bout de tout ça. Tout le monde, c'est une aventure qui éreinte tout le monde. Et c'est des gens que tu vois plus que ta propre famille, tout ça. Donc t'arrives à un moment donné où à la fin t'as besoin de... Ouais, c'est une relation humaine où à la fin tu peux plus juste... tu peux plus. Ouais, tu vois, parce que ça allait trop loin et du coup juste la présence de quelqu'un... t'énerve ou quoi, tu vois, et du coup t'as pas forcément une rentrée à la piscine, donc t'es là chez toi, et surtout en fait j'avais plus de couleurs dans ma vie parce que j'avais plus d'objectif, tu vois, c'était l'objectif, c'était l'équipe de France, puis enfin l'INSEP, puis l'équipe de France, puis les Jeux, puis ça a été fait, puis j'étais en finale et puis j'étais quatrième. Je savais que c'était un peu un... ça serait très long pour retourner au prochain jeu, qu'il y aurait aucune garantie. Que j'ai vu au jeu, là, et justement, ces stars, ces gens qui ratent jamais, certains même pas passés en finale. Donc, je sais que la prochaine fois que je serai au jeu, ce sera pas là en revenu de blessure, un peu outsider, ce sera, j'y vais pour ce que je sais pourquoi j'y vais, donc ce sera aussi pas du tout la même pression. Donc, je savais le chemin qu'elle allait arriver, qui serait peut-être un peu moins drôle que comment il avait été jusque là. Il paraissait infini, c'était une montagne, et moins drôle. Et moi, tout ce que je voulais faire dans ma vie, je l'avais fait. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était faire les jeux depuis tout gamin. Je t'emmènerais au jeu, j'avais emmené ma famille au jeu, je les avais emmenés en finale des jeux. Donc, t'as plus d'objectif, quoi. Le truc qui te lève le matin, on disait un objectif immense, que participer au jeu qui te fait lever quand c'est dur, ok, mais maintenant t'as fait une finale au jeu.
Ouais.
Et donc.
Qu'est-ce qu'il y a après, quoi?
Qu'est-ce qu'il y a après? Puis en plus, t'es condamné, tu vois, quand t'as fait quatrième, tu dis maintenant, je suis condamné à être médaillé. Je suis médaillé au déçu.
Ouais.
Je peux pas quatrième deux fois, ce sera terrible. Moins bien, ce sera, ces 4 années là pour faire moins bien. Et en fait, t'es condamné à être médaille olympique. C'est médaille olympique ou déçu, quoi. Donc c'est un petit peu une situation qui est pas confortable, qui est pas la plus plaisante, quoi. Et donc, là, du coup, il y avait ce rêve là, quoi. Pilote de chasse, c'est sera encore faisable, quoi.
T'as tenté?
J'ai fait ma valise pas mal de soirs. J'ai fait ma valise pas mal de soirs à claquer les... Et puis tu te retrouves dans la rue et t'avais dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vas où les 2h du matin? T'as pas de vie, là, actuellement. Ça fait un mois que t'es pas sorti de ton canapé. Tu vas toquer à la porte de qui, là? Bonjour, à la base aérienne, à 5h du matin. Coucou, comment on fait? Enfin, construis ton truc. Ça se construit. T'as toujours bossé pour construire les choses. Donc, tu rentres. Si tu veux le faire, fais-le. Mais tu construis le truc, tu te prépares. C'est pas cadeau, quoi. C'est pas parce que t'as fait finale olympique qu'on va t'ouvrir les portes. Donc, c'est un nouveau truc où faut bosser comme un acharné. Remets-toi dans les conditions. Et en fait, le temps de faire ça, du coup, il y a les cours qui reprennent, donc ça te fait déjà sortir un peu de chez toi. Il y a l'entraînement qui reprend petit à petit, parce que tu te dis, ça va me servir au moins à me préparer physiquement pour l'autre truc. Et tu t'y remets petit à petit. Et le goût à tout ça reprend. Et stage limite, c'était 25 ans. 25 ans, c'est l'année des jeux. Donc tu te dis,
je fais quoi?
Est-ce que j'ai l'opportunité de peut-être faire les deux? Donc, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à prendre la revanche? Et puis, en fait, tu te retrouves à dire, allez, on va essayer quand même. Okay. Puis, ça tombe bien, j'y suis bien fait d'y retourner parce que cette année-là, je fais champion d'Europe et là, ça m'a convaincu de dire, je vais essayer de faire les deux, quoi.
Ouais. C'est le plus beau souvenir de ta carrière, de ce titre?
Champion d'Europe?
Ouais.
Non. Non. Non, c'était, Non, parce que les relations avec l'entraîneur étaient pas à ce moment-là revenues encore tout à fait, et il y avait des tensions en fait avec tout le monde, Mathieu, Laura et moi, parce que bah comme on était les trois qualifiés, on avait passé l'année vraiment les uns sur les autres et tout ça, et c'était vraiment humain, tu vois.
Ouais.
Et du coup à ce moment-là, bah on l'a pas partagé autant que j'aurais aimé. À ce moment-là, on pouvait pas le partager. On l'a partagé, mais pas comme on l'aurait fait un an avant, tu vois.
Ouais.
Donc c'est pas le meilleur souvenir. Non, pour moi, le meilleur souvenir, c'est le jour où je me qualifie au jeu.
Ok.
Parce que là, on était encore une équipe de choc, et je saute dans les bras, et c'est lui qui essaie de me faire réaliser un peu, et au coco, tu veux au jeu, enfin voilà. Et le lendemain, qui m'amène à la piscine pour la finale et qui me dit bon, je compte sur toi, bah, tu lèves les yeux, tu profites de ce moment et tout quoi. Et là, ça, c'était des moments magiques que j'ai vécu avec.
Ouais. Voilà, c'est, j'imagine que ça doit être fort. Là, t'as ta qualif pour les Jeux au mois d'avril, c'est ça?
Non, moi, je suis qualifié pour les Jeux. Ah, alors, je l'ai eu au championnat du monde cet été, il fallait être finaliste, pardon. Et je l'ai eu.
Ouais, bien, ok. Mais voilà. Excuse-moi, mais j'ai cru que t'étais encore en cours de qualif. Du coup, non, t'as déjà ton ticket pour Tokyo, quoi.
J'ai le ticket pour les Jeux.
Cool.
Alors, j'avais un ticket pour la France, parce que tu débloques, il n'y a pas de ticket nominatif. Mais dans les règlements internes à la France, on a dit que celui qui l'ouvrait l'obtenait, le prenait.
D'accord.
Donc bah, vu que j'ai ouvert le quota pour les Jeux, bah c'est mon quota. Et okay. Donc j'irai aux Jeux. Donc ça, c'est un avantage énorme, c'est que je peux me préparer pendant un an plutôt que de dire je dois être très fort en avril, avoir la pression de la dernière chance et tout ça, et puis après te remettre dans une phase de prépa. Alors qu'on sait qu'on peut avoir qu'un seul pic par an de perf pur. Donc au mois d'avril, et bah cette dernière chance de qualif se passe dans la piscine des Jeux.
Ouais.
Donc bah moi j'irai pour découvrir le UE, avoir concouru dans cette piscine, connaître l'ambiance et pour après me préparer mentalement et tout ça à cette compète, mais sans la pression de tout ça. Donc si en avril je suis pas totalement prêt, limite c'est normal quoi.
Ok. Ouais ouais, donc mais écoute, ouais, ça va être super, donc j'ai hâte de suivre ça. En tout cas, je vais regarder. Vous êtes encore le dernier jour ou...
Je passe le dernier jour.
Ouais. Ok. C'est un peu le comment dire. C'est un peu la punition, non?
C'est une punition, ouais. C'est pas, c'est...
Qu'on se le dise, parce que...
Mais pour toutes les compétitions.
Ouais.
Pour toutes les compétitions, tu vois, cet été, on avait les championnats du monde à Guangzhou, en Corée, c'est deux semaines.
Ouais.
Et la semaine d'avant, on était en stage, parce qu'il y a des gens qui attaquent le premier jour, donc il faut qu'on soit déjà en stage avec le décalage horaire et pour se préparer et tout. Donc toi, en fait, tu pars trois semaines pour passer le dernier jour.
Ouais.
Et le moment où toi, tu passes, tout le monde a déjà relâché la pression.
Ouais.
Tout le monde a déjà eu ses résultats, tout le monde peut commencer à profiter. C'est toujours comme ça, quoi. Et là, au jeu, ça va être pareil. On va partir en stage, après au jeu. Donc, t'as la première émulation des jeux. Et puis finalement, bah, après, ça passe. Les gens vont passer, vont avoir leurs résultats, vont commencer forcément à faire la fête parce que c'est les jeux, c'est la fin, c'est le truc d'une vie. Donc, ils vont commencer au Club France à sortir, à voir leur famille, à tout ça. Et toi, tu restes dans focus. Mais comme t'es le dernier jour, c'est même pas que tes coéquipiers du plongeon. C'est les athlètes, c'est le village olympique, quoi. En entier.
Ouais.
À la fin, il doit rester une infime partie des gens qui passent le dernier jour et tout le monde a déjà lâché. Que ce soit au self, à la cafette, enfin, tu sens tout, les plongeurs sont relâchés, ceux qui viennent à la piscine, ben, ils montent dans le bus qui nous emmène à la piscine en mode, allez, je vais profiter ou quoi. Et toi, t'es en mode, j'ai même pas commencé, quoi.
Ouais.
Au moment où tu finis, tout le monde sort déjà depuis des jours, tout le monde est fatigué, on te dit, ça remet une fermeture et puis demain, t'as l'avion, tu rentres.
Ouais, okay. C'est sûr que ça fait, c'est particulier, quoi.
Ouais, c'est particulier.
Ouais. Bon, écoute, on croise les doigts. En tout cas, moi, j'ai vu que t'avais dit une phrase que si ton sport avait pas été olympique, t'aurais probablement pas continué ces 4 années supplémentaires.
Ouais, je fais ça. Je fais ça pour les Jeux.
Ouais.
C'est
la magie.
C'est ce qui m'a amené depuis tout petit. C'est forcément quand on voit le championnat du monde, on a envie d'être champion du monde. Mais le championnat du monde, c'est un moyen de se qualifier aux Jeux, quoi.
Ouais. C'est la première, c'est la petite porte, quoi. C'est la porte d'entrée.
C'est un moyen de qualif, un moyen de se tester.
Ouais.
Disons que les championnats du monde, c'est une compète comme les autres. Avec forcément le titre en jeu est plus important. Tu te prépares toute l'année pour. Donc, mais ça reste dans le format de compétition habituel, l'ambiance habituelle. C'est un championnat du monde, c'est hyper important. T'es hyper stressé, t'es à 200%. Mais ça reste une compète de plongeon. Les jeux, c'est les jeux. C'est autre chose, quoi.
Ouais, mais
c'est à part.
Bah écoute, en tout cas, trop cool. J'arrive un petit peu à la fin de mes questions. Où est-ce qu'on peut dire aux auditeurs de venir t'envoyer des petits messages d'encouragement?
Eh bah, ben, sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est bien sûr.
Facile, donc ils peuvent me retrouver sur Instagram.
Ouais,
Instagram, c'est assez facile. Benjamin Offray, tout attaché. C'est là où vraiment on peut me retrouver. Du coup, t'as les messages perso et tout ça. Je consulte aussi Twitter.
Okay.
Facebook un peu moins, mais quand il y a quelque chose, dans son temps, je jette un œil, mais je suis un peu moins actif sur Facebook. Mais
À chaque fois, je demande aux sportifs, mais généralement, ce qui revient le plus souvent maintenant, c'est suivre un petit peu sur Insta. Donc
ouais, je pense que c'est le plus facile pour échanger, parce que ce soit la messagerie d'Instagram ou la messagerie des pages Facebook.
Ouais.
Je pense que celle d'Instagram, elle est mieux faite.
Mmh.
Et puis après, ils peuvent nous suivre, je pense, plus sur Facebook, on fait un post. Sur Instagram, on poste des stories, enfin, disons un peu plus de choses. Quand tu fais un post, tu mets vraiment un truc important ou un gros plongeon, une annonce, un résultat, un truc. Et bah, en story, tu vas mettre, ce matin, on est à l'aéroport, on part là. Donc les gens savent, il n'y a pas d'un coup, bam, résultat, je suis à Montréal, je fais ça. Il y a quelques jours avant, déjà, on part à Montréal. Donc, il y a plus le moyen, je pense, de suivre un peu les aventures.
Ouais, c'est plus facile de créer du contenu.
Ouais, je pense qu'il y a plus d'immersion dans l'aventure sur Instagram.
Ok. Comme je te le disais, la dernière question du podcast, c'est un petit peu de transmettre le flambeau, transmettre le micro plutôt, à un prochain invité. Est-ce qu'il y a un ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer? Si on a plusieurs, je prends aussi.
S'il y en a plusieurs, ouais. Là, comme ça, c'est difficile à dire. Moi, je t'aurais bien dit d'aller voir, tu vois, Lewis Hamilton.
Avec plaisir. Tu l'aimes beaucoup?
Hein?
Enfin, c'est un sportif que tu admires?
Ouais, il fait partie des sportifs que j'admire pour la façon dont il reste motivé, conquérant. C'est un peu, je le mets dans le même panier que des Teddy Riner, tout ça. C'est, mais bon. Qu'est-ce qui fait que tu réussis encore à t'infliger ça, à avoir cette rigueur, cette envie, alors qu'aujourd'hui, t'as déjà tout.
Ouais.
Tout dans ton sport, tout dans la vie, ils ont des passions en dehors, ils ont plein de projets, ils ont des vies qui s'arrêtent pas du tout. Et la partie sport devient peut-être la partie la plus ingrate. Et pourtant, c'est ce qui les maintient et tout ça. Et c'est vrai que, t'arrives à dire, moi aujourd'hui je fais champion olympique pour y retourner et dire je veux le refaire encore. Enfin, tu vois, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, tu es condamné à faire mieux ou pareil. Une fois que t'es pareil champion, tu peux faire mieux ou pareil. Alors après, t'as le nombre de records et tout ça, mais pareil, tu vois un Teddy Riner, une fois que le record il est explosé de chez explosé, une fois que c'est 4 titres, quand t'en es à 7, 8, qu'est-ce qui fait que, quoi?
Ouais, qu'est-ce qui fait que
t'as encore autant cette fin et tout, et ça, c'est des choses que je respecte énormément, parce que pour un peu l'avoir vécu à mon petit niveau, mais européen et tout ça, c'est vrai qu'une fois que t'as fait champion d'Europe, quand t'arrives au championnat d'Europe et que t'es un peu un outsider, t'es un challenger, tu gagnes, c'est un truc de fou quand tu reviens l'année d'après, en fait, comme t'as gagné, on s'attend soit que ce que tu regagnes, ou que tu sois déchu, entre guillemets, quoi, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Et c'est pas du tout la même pression, c'est moins agréable à vivre et tout ça, et donc du coup, tu dis, mais ces gars-là, à ce niveau-là, le plaisir, il est dans quoi? Parce que le plaisir, c'est forcément transformé par rapport à leur début.
Ok.
C'est forcément transformé par rapport à leur début, et ça me fascine, ça m'intéresse, je trouve ça vraiment incroyable, ces athlètes là bon, je pense que tu auras plus difficilement accès à ce genre de pilote de Formule 1 ou ce genre de choses. Pourquoi t'irais pas voir justement Thomas Bouaille? Tiens, c'est un ancien sportif, mais
ça m'a donné envie d'aller le voir.
Il a déjà un super parcours, et puis lui, il a fait qu'il surmonte des étapes, qu'il s'y remette. Aujourd'hui, entraîneur, mais ça a pris du temps et tout ça.
Ouais.
Et puis sa philosophie, sa façon de voir, il a brillé, mais il a toujours été accessible.
Ok. Non, en tout cas, je le connaissais très peu, donc.
Il est plus en activité, mais je pense que ça peut être intéressant.
Génial. Ben ouais, en plus j'aime bien, j'avais envie d'aller voir un peu des coachs et des gens un peu expérimentés, donc c'est une très bonne recommandation.
Ben voilà.
Super. Ben écoute, merci beaucoup Benjamin.
Avec plaisir, merci à toi.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.